Ce podcast est rendu possible grâce à la Typographie, réalisateur d'identité visuelle et de web design. Pour plus d'infos, lien dans la bio.
Réflexion ou action ?
Action.
Réflexion.
Monoculture ou polyculture ?
Polyculture.
Polyculture.
Nous avons défini, sinon étudié, le wine, le vin.
C'est la terre, c'est aussi le soleil.
Des champis de vinesse !
À première vue, n'utiliser ni chimie, ni soufre, ni cuivre dans la vigne peut paraître utopique. Mais plein d'envie, de réflexion, d'essais et de doutes, Alexandre et Amélie ont tenté le pari. Un chemin, une nouvelle voie proposée. Belle écoute. Bienvenue dans la Voix des Vignes, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Bah, Amélie.
Et Alexandre.
Donc, on était sommeliers de formation, tous les deux. À Chamalières et on a très vite monté en fait notre bar à vin à Clermont-Ferrand, une cave bar à vin, parce que on était dans les étoilés, c'était vraiment pas trop notre truc, et puis on sait ce qu'on veut dans la vie, donc on a besoin de bosser pour nous quoi, donc du coup on est devenus nos propres patrons avec un autre copain de mention, et au final ce qui nous passionnait le plus dans ce métier là c'était d'aller chercher les vins et d'aller voir les vignerons, et au bout d'un moment, on s'est dit faut qu'on franchisse le pas et qu'on se lance.
Qu'on devienne vigneron, ouais. C'est une rencontre, c'est une...
C'est une, bah une c'est fois... Jean.
Alors ouais, mais même avant, je dirais, il y a Nicolas Badel,
ouais, aussi.
Qui est en Vallée du Rhône, qui travaille sur des Saint-Joseph, qui est en biodynamie. Et c'est vrai qu'on allait tous les mois voir des vignerons. Mmh. Et un jour, mon ancien assistant chef sommelier de chez Marcon nous appelle et nous dit, bah voilà, je travaille dans ce domaine, parce qu'il était aussi en train de se reconvertir pour devenir vigneron. Et il nous dit, faut absolument que vous veniez voir ce mec, c'est génial. Et nous, on l'a abordé un peu d'un côté snob, c'était un inconnu, on trouvait pas d'infos sur ce personnage, sur ce vigneron, Nicolas Badel. Et donc, il nous reçoit chez lui. Alors lui, il est en dehors de l'appellation Saint-Joseph, son chai, et il a une petite parcelle juste à côté de son chai, donc qui passe aussi hors appellation Saint-Joseph. Et donc, quand on est rentré dans cette parcelle, ça a été un côté un peu magique. Tout se coordonnait bien, en fait. On est arrivé, il y avait juste une petite brise qui nous a apporté plein d'odeurs, parce que c'était au printemps, donc tout était en train d'exploser. Plein d'odeurs. On a vu cette vigne, mais incroyable, qui était vraiment, qui avait un port dressé, qui était magnifique. Et on a vu ce petit groupe, c'était un petit groupe de cailles qui passait. Enfin, tout était féerique.
C'était des perdrix,
Il nous a expliqué, ouais, des perdrix, et il nous a expliqué vraiment la biodynamie, mais d'une simplicité extrême, en fait, ce que ça représentait, et de manière très concrète. Et c'est là où on s'est dit... En fait, c'est ça qu'on a envie de faire, parce que du coup, il part d'un principe global, mais ça devient un modèle de vie, en fait. Et dans son exploitation, c'était magnifique. Et après, bien sûr, bah, on était déjà acquis, conquis. Quand on a goûté le vin, on a trouvé ça énorme. Mais je pense qu'on n'était pas, tout à fait neutre, quoi.
Ouais.
Et après, on a rencontré voilà, Jean Maupertuis, qui venait au temps d'un verre.
Ouais.
Et ce qui était marrant, c'est que c'était Amélie qui le servait tout le temps, mais nous, on ne connaissait pas. On ne savait pas qui était Jean Maupertuis, parce que c'est quelqu'un de très discret.
Il n'y a pas l'image qui circule,
Sergerin. Très bien,
c'est vrai, je vois un bonhomme avec une moustache, mais c'est tout.
Bah ouais, et encore, c'est quand il était... Non, il n'a plus une barbe. Et c'est vrai que les natures, au début, quand on a fait le temps d'inverse, c'était très difficile de les contacter, les natures auvergnats, pardon, et de les avoir.
Ils sont toujours difficiles.
Ils sont toujours difficiles, ouais. Et du coup, c'est vrai que quand c'est un copain qui a dit « Ah Jean, comment tu vas ?» Et c'est là on a tilté.
Il
a
parlé de vie. C'est Jean Maupertuis.
Voilà. Et après, ça a été
du
un...
Du coup, moi, je lui ai demandé, je l'ai pris à part parce qu'il était avec ses potes. Et puis, je lui ai dit « On aimerait bien se reconvertir et s'installer en Auvergne avec Alex. » Et donc, moi, je recherchais un apprentissage. Et je voulais savoir si je pouvais travailler avec toi. Donc, okay. Il m'a regardé avec ses yeux ronds. Il m'a dit « Ouais, je sais pas, faut que j'y réfléchisse, quoi. » Et donc, il m'a dit, passez au domaine, un de ces quatre, et puis on en parle. Donc, on est allé le voir un matin, fin de matinée, c'était au mois de mars, il était en train de dégorger les pétillants, les pingules. Et donc, on les a regardés faire comme ça, et après, on s'est posé, on a pris l'apéro, on a discuté, et puis à la fin, il me dit, ça se passe comment les papiers pour l'apprentissage? Et donc, voilà, c'est comme ça que je sais qu'il me prenait comme apprenti, et c'était génial. En fait, il avait des projets de plantation, et donc, il réfléchissait plus ou moins peut-être à prendre quelqu'un pour l'aider à ce moment-là, parce que ça demande quand même beaucoup plus de boulot. Et donc, je suis tombée au bon moment, quoi.
Ok, et ça, c'était en quelle année? Et vos débuts, du coup, le domaine après?
Alors, la création du TDV, c'était 2015.
Temps d'un verre, tous ceux qui connaissent pas du coup.
Oui, c'est ça.
C'est le bar à vin dont on parlait tout à l'heure.
Et on est parti en avril 2017 du temps d'un verre.
Avril 2017, donc toi tu as commencé ton apprentissage.
Et moi j'ai commencé fin juillet 2017 chez Jean. Okay. Et donc j'ai fait un BTS en fait en apprentissage à Montpellier.
D'accord.
Donc je faisais les trajets à chaque fois pour la formation. Et donc ça a duré 2 ans, donc j'ai été diplômée juillet 2019. Ouais, c'est ça. Et notre premier millésime, c'était
2018.
Voilà,
d'accord.
Parce que Alex, lui, en fait, en parallèle, a monté le domaine. Donc, il s'est occupé des travaux du chai. Il avait trouvé des premières parcelles sur Clermont. Et donc, il a commencé à s'en occuper seul. Et il avait fait une session de vinification chez Vincent Marie.
Vendant, j'ai vinifié chez Vincent Marie.
Ouais.
Et puis après, bah, c'est vrai que très vite, il a fallu, ça prend un peu de temps. Puis on avait les animaux, les parcelles. Et en fait, au début, moi, je voulais un petit côté un peu globe-trotteur aussi, en profiter pour aussi avoir le côté globe-trotteur. Mais bon, en fait, ça faisait beaucoup de choses. Et les travaux, les animaux, il faut être sur place. Et puis voilà, c'est vrai qu'on a très vite, on a eu la chance de trouver ces parcelles à Clermont-Ferrand, plus 2-3 autres parcelles au fur et à mesure. Et voilà, bon, c'était des parcelles qui n'étaient pas toujours en bon état, donc il fallait un peu les retaper, et c'est ce qui nous a fixé. Mais oui, premier millésime 2018.
Et donc vous nous avez beaucoup parlé de Clermont-Ferrand, mais ici on n'est pas situé à Clermont-Ferrand, votre chai n'est pas à Clermont-Ferrand.
Ouais.
Et toutes vos vignes ne sont pas forcément non plus sur Clermont-Ferrand. Est-ce que vous pouvez nous dégrossir un petit peu
la répartition des vignes, ouais.
Alors ici on est avant ça. Donc on reste dans le Puy-de-Dôme, mais on est vraiment en extrême limite de l'Allier. Hein. Ghana, c'est juste à côté, c'est à 10 minutes en voiture. Et donc, en fait, à la base, on avait un projet de plantation sur Arton, qui est un village à 10 minutes un petit peu plus au sud. Et donc, il y avait 2 hectares 8 à planter. Donc, d'où le fait qu'on soit aussi installé ici, parce que c'était, en fait, c'est le terroir de ma famille. Ici, c'était à mon grand-père avant, qui était agriculteur. Donc, on est dans une basse-cour, une ancienne basse-cour. Et donc, la grange se prêtait bien à créer un chai, quoi. Donc, d'où l'installation ici. Et après, on a du coup des vignes à Clermont, des vignes à Enval, des vignes à Rion et des vignes à Arton. Enfin,
voilà,
une vigne à Arton.
Il nous reste un petit bout de vigne à Arton. Ouais. Ce qui fait, on travaille sur 1,8 hectare maintenant. Ouais. 1,8 hectare, ouais.
Et en termes de cépage et de sol, qu'est-ce que vous avez?
Le cépage, c'est gamay, hein. Essentiellement, après on a quelques pinots noirs qui se baladent au milieu des vignes parce qu'à un moment donné c'était la mode de replanter un peu de pinot, mais c'est vraiment
c'est
anecdotique, il y a 3 fois rien. Et après on a quelques blancs qui se baladent toujours au milieu des vignes parce que les anciens plantaient toujours un peu de raisin de table blanc pour eux,
mais c'est vraiment
mais
un
pareil
ou deux
c'est un ou deux pieds.
Mais nous après par contre, comme le projet de plantation à Arton ça s'est un peu stoppé, on a quand même repris tous les pieds ou tout ce qu'on pouvait reprendre comme pied de nos plantations pour les remettre, remplacer les manquants dans
donc
les
on a, un
donc
peu
on a du chenin, on a de la ligotée qu'on avait plantée en 2019 et en 2020.
Voilà,
d'accord.
Donc un peu de chenin, un peu de la ligotée. Et après, c'est vrai que la chance qu'on a, c'est que du coup, on a une diversité de terroirs un peu plus riche parce que la répartition est un peu plus large. Et c'est vrai que ça va de sable sur Madargue à des basaltes sur Enval et puis à Clermont-Ferrand. Là, c'est beaucoup plus complexe. C'est argilo-marno-calcaire avec des éboulis volcaniques. Donc, on a. Okay. C'est vrai que ça, c'est une chance. C'est qu'on a grossièrement un cépage majoritaire gamay, avec maintenant bon, du chenin et de la ligotée qui arriveront en production un peu plus tard, mais avec une diversité de sol assez conséquente, quoi.
Et on est d'accord, vous êtes que tous les deux à travailler au domaine.
Tous les deux, et puis après, des fois, on a la visite de personnes. C'est vrai que ça, c'est très appréciable. On a, donc nous deux, bien sûr, majoritairement, mais on a la chance de rencontrer pas mal de monde, et puis des gens qui viennent travailler une journée. Après, on a eu des amis aussi qui s'installent prochainement, qui sont venus nous aider un mois. Donc ça, c'est assez passionnant. Des fois, on a des... Et puis ça permet d'échanger, d'avoir plein d'idées différentes. Mmh. Ça, c'est assez stimulant.
Bah après, oui, en général...
Mais oui, on est tous les deux, ouais.
Sûr que les vendanges, on les fait pas tout seul, et on les fait avec la famille, les amis. Et puis il y a des professionnels aussi qui viennent, des cavistes et tout ça, des restaurateurs qui viennent nous aider, parce qu'eux, ils aiment bien sortir un peu de chez eux. et puis les plantations, on les faisait pas seuls non plus quand même.
Ouais, ouais, ouais. Ça, on faisait toujours appel à la famille, aux amis.
On faisait ça en communauté.
En communauté, ouais. C'est plus sympa.
Et du coup, pour aborder la deuxième partie de cet épisode, on avait décidé ensemble de parler du traitement ou du non-traitement, ou plutôt du traitement avec les plantes. Et oui, dans la première partie, je ne vous ai pas posé non plus la question du type d'agriculture que vous pratiquez. Mais je pense que tout ça se...
Tout ça est lié, ouais, ouais.
Et donc, bah, je vous laisse la parole justement sur ce sujet-là.
Et ben, la première partie, si on devait définir, commençons par la viticulture.
Ouais.
Donc, qui va amener à la vinification. Viticulture, on peut se qualifier biodynamie. En biodynamie. Pas certifié, hein. Nous, on n'a aucune certification. Ouais. Alors, on pratique la biodynamie comme un outil, en fait.
Oui.
C'est ça ?
Oui, on n'est pas, on n'est pas perché dans le lunaire. Voilà, la Lune a un effet, c'est sûr et certain, donc on travaille avec la Lune. Mais on pense surtout que la biodynamie, c'est faire une agriculture le plus centré possible, le plus local possible, donc essayer d'être le plus autonome possible en fait dans notre agriculture, donc d'où les animaux, parce que ça permet d'avoir du fumier, donc de faire un apport dans les vignes. Et après, au niveau des traitements qu'on fait avec les infusions, on récolte nos plantes, donc faire en sorte qu'elles soient locales, quoi, que tout soit le plus autonome possible.
Ouais, parce que Steiner, quand il a créé la biodynamie, c'est vrai qu'on a lu les écrits de Steiner, le fameux cours aux agriculteurs, et c'est vrai que souvent, on oublie qu'il y a des gens qui font de la biodynamie qui font juste 2-500 pets par an. Alors c'est déjà très bien. Hein.
Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est une 500p ?
Ouais, 500p c'est une préparation, c'est une des préparations de base en fait, c'est la préparation à base de bouse de vache, hein. C'est la fameuse bouse de vache que tu vas enterrer dans des cornes de vache tout l'hiver sur certains lieux et qui va ressortir vraiment chargée en matière organique et surtout...
Ça s'humifie.
Ça devient un humus quoi, quasiment, et ça c'est ultra intéressant. Les gens l'utilisent, voilà, et c'est déjà très bien, tu l'utilises en général juste après les vendanges, quand les sols sont encore un petit peu chauds, et puis au printemps, quand les sols se réveillent. Et puis après, il y a beaucoup de gens qui essayent de travailler voilà, avec la Lune, et c'est vrai que Steiner, il a aussi théorisé tout ce qui est autour. Ce qu'expliquait Amélie, c'est vraiment de créer, quand tu as une ferme, c'est d'être en polyculture.
Un cercle donc, vertueux.
C'est, voilà, le but, c'est vraiment d'avoir le moins d'impact sur ta nature, sur la nature autour. Même si, il ne faut pas se leurrer, on a une activité humaine, donc forcément, on impacte sur notre environnement. Du moment où on décide d'avoir des animaux à la maison, ces animaux-là, on les a créés parce qu'ils ont été, ils sont reproduits par l'homme, en fait, par l'effet de l'homme, quoi. Donc forcément, il y a un impact. Et c'est vrai que c'est ce qui nous plaît dans la biodynamie, c'est surtout d'avoir ce cercle vertueux, c'est de se dire, voilà, on pioche...
Le moins d'impact possible, voilà. Et le plus de biodiversité possible.
Et plus de biodiversité. Et on pioche dans les écrits de Steiner, et tous ceux après, parce que la biodynamie a continué, Steiner n'a pas eu le temps de... Il a théorisé une base, et puis après, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé dessus. Notamment, nous, ce qui nous intéressait énormément, c'est les infusions de plantes. Parce qu'on travaille depuis 2018, première année 2018, on fait que des infusions de plantes. Ça, c'était notre premier outil. C'était
Pour recentrer, du coup, vous parlez que vous faites que des infusions de plantes et rien d'autre. Ça veut dire que, contrairement à ce qui est fait classiquement sur une agriculture biodynamique où on utilise la bouillie bordelaise, soufre et cuivre, chez vous, on ne voit pas ça.
Non, on ne voit que des infusions de plantes. Donc 2018, premier millésime, on n'utilise que des infusions de plantes. C'était notre outil numéro 1. On achetait ces plantes donc à un fournisseur, donc c'était des plantes séchées. Okay. Donc là, on faisait des infusions. Après, à partir de 2019, on a aussi utilisé les huiles essentielles, parce que c'est vrai qu'on s'est renseigné là-dessus. Et alors, c'est à utiliser avec parcimonie et c'est un peu plus...
Il faut les varier surtout.
Voilà, il faut les varier, c'est un peu plus technique. C'est plus concentré hein, donc, qu'une plante qui est juste utilisée en infusion.
C'est pas la même chose qu'une teinture mère.
Non, c'est assez différent et du coup la chose c'était qu'on était vraiment en test et on était sur un millésime 2019 ultra solaire, c'était la double canicule, donc c'est vrai qu'on a utilisé ça vraiment avec parcimonie parce qu'on avait vraiment peur que ça impacte sur le végétal. Déjà le végétal souffrait des conditions de chaleur, donc on a fait très très attention, et 2020 c'est vraiment le millésime où on s'est senti le plus à l'aise, où on a utilisé voilà infusion et huiles essentielles pleinement, en
petit
fait.
Petit lait aussi.
Petit lait. Et ramasser, comme disait Amélie, sauf la prêle. La prêle, c'est la seule plante qu'on achète.
Ouais.
Parce qu'on n'en trouve pas à côté de chez nous. Il faudrait descendre un peu plus au sud du Puy-de-Dôme. Et c'est vrai que c'est une facilité pour nous de la commander.
On va peut-être en planter là, chez notre voisin, justement. Lui, il a une zone un peu marécageuse en bas, dans ses bois. Et donc, il nous a proposé, parce qu'on lui avait dit que c'était la seule plante qu'on n'arrivait pas à ramasser. Donc, il nous a dit, on pourrait en semer, quoi. Donc, on va faire des essais. On va essayer de la semer, là.
De la semer, voilà, pour avoir toutes les plantes. Et c'est vrai que tout le reste, par contre, c'est Amélie qui le... qui le ramasse, on le fait sécher, et puis c'est d'autant plus satisfaisant parce que c'est vraiment ce que Steiner invoquait dans son, dans son, dans son idée, quoi. C'est vraiment que tu, tu utilises tout ce que tu as autour de toi pour stimuler ton vivant. Et c'est vrai que le résultat, 2020, on est super content, c'est un millésime qui est d'équilibre, et on a vu une biodiversité au niveau des plantes incroyable, quoi. C'est vrai qu'on est rentré dans nos vignes, là pour le coup c'était vraiment, on a passé beaucoup de temps à contempler ce qui se passait parce qu'on a vraiment vu l'explosion. Après, le millésime aussi était plus précoce à ça parce qu'on a eu des très belles floraisons en 2020, mais c'était magnifique. Et bon, voilà, 2021, plus dans le doute, parce qu'on a beau avoir utilisé tout notre armada d'infusion et d'huile essentielle. On a eu les 15 premiers jours de juillet qui ont été vraiment humides, avec cette humidité constante, et là, ça a craqué, donc ça a été très compliqué.
Ouais, on a fait des erreurs.
On a aussi fait des erreurs, ouais, on tâtonne.
On aurait dû faire de la silice, on n'en a pas fait parce qu'on a des vignes un peu chétives, et donc ça nous fait un peu peur. La silice, ça peut être assez néfaste sur des vignes chétives. Et donc on n'a pas osé, on aurait dû parce que c'était vraiment un millésime humide. Et puis je pense qu'on n'a pas été assez rigoureux aussi sur l'herbe. En fait, on est tellement content de cette diversité qu'on a dans les vignes qu'on a des scrupules à couper l'herbe, à enlever les fleurs. Et parce que tout ça, c'est de la nourriture pour les abeilles. Et donc le problème, c'est que de couper l'herbe, c'est supprimer de la nourriture pour tous ces pollinisateurs. Et ils sont déjà bien mis à mal comme ça par l'agriculture intensive qui se fait un peu partout autour. Donc du coup, ouais, c'était un peu compliqué.
Toujours des choix très difficiles.
Je pense que voilà, sur un millésime humide, bon bah voilà, il faut
couper l'herbe.
En fait, tout ce qui est travail en verre, quand on fait du zéro traitement, enfin zéro traitement chimique, c'est indispensable d'être carré sur le travail en verre. Donc faut ébourgeonner, faut couper l'herbe, faut relever plusieurs passages, faut effeuiller.
Cette année, on a beaucoup effeuillé, donc ça a limité. Mais comme on disait, 15 premiers jours de juillet ont été trop. Donc c'est vrai qu'on est arrivé à la limite de notre mode de raisonnement. Là, il y a deux chemins qui s'offrent à nous. Soit on aurait pu intervenir et se dire on essaye de sauver les meubles, soit on continue. Nous, on a fait le choix de pas gâcher entre guillemets le travail qui a été fait depuis 3 ans, vraiment essayer de croire à la mémoire du végétal. Et c'est ça qui est d'autant plus intéressant, c'est quand on intervient comme ça, juste en huile essentielle et en infusion de plantes, on se rend compte du matériel végétal, à savoir sélection massale, sélection clonale. Et là, nous on a la chance d'avoir dans nos parcelles, surtout à Clermont-Ferrand, des massales, et sur les autres parcelles, des clones. Et là on a vu la différence, parce que face à ces grosses maladies, on a vu clairement les clones vraiment s'effondrer d'un seul coup, alors que les massales ont résisté. Elles ont quand même pris la maladie, mais elles ont résisté. Là, cette année, on a décidé de faire un vin du domaine vraiment qu'on fait d'habitude, c'est avec les sélections massales, parce qu'il y avait matière à vraiment travailler les raisins, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est ultra pertinent parce que ça nous permet de réfléchir. Et c'est une réflexion qui est de plus en plus présente chez les vignerons. C'est le matériel végétal, en fait. C'est qu'est-ce que tu... Parce qu'on a arrêté de réfléchir, le vigneron a arrêté de réfléchir à son matériel végétal, a confié ça à un pépiniériste parce qu'il ne pouvait pas tout faire. Mais avant, c'est vrai que c'était beaucoup le vigneron qui greffait, hein, qui avait son propre matériel végétal. Maintenant, on a confié ça aux pépiniéristes, en plus derrière des politiques de subvention qui sont arrivées sur les clones, et des difficultés aussi législatives, parce que c'est très dur pour les pépiniéristes de faire des sélections massales. Et malheureusement, on se retrouve avec des choses... Ouais. Par exemple, si vous voulez acheter du gamay d'Auvergne en sélection massale chez un pépiniériste, à notre connaissance, ça n'existe plus.
Il faut envoyer
ses bois chez les pépiniéristes pour qu'ils fassent la reproduction eux-mêmes. Mais il n'y a plus de pépiniéristes qui te proposent du gamay d'Auvergne en sélection massale chez
eux. Le clone, c'est fait pour faire de la grosse production, quoi. Ça fait des gros rendements. Et le problème, c'est que comme c'est exactement le même individu répété à l'infini, eh ben, ils sont hyper sensibles aux maladies parce qu'ils ont tous la même faille. Donc dès que tu as les maladies qui arrivent, ça te ravage la parcelle en moins de 2, alors qu'une massale, tu as plein d'individus différents, ils ont chacun leur spécificité et du coup ils résistent plus. Et c'est des vignes qui ont un peu plus de mémoire parce qu'elles ont, elles ont vraiment pris chaque millésime et elles se sont adaptées. Et donc elles vont par exemple débourrer plus tard quand elles ont connu le gel, etc.
Ça, les vignerons le disent souvent quand il y a une année de gel. En général, l'année d'après, ils produisent. Parce que quelle est la nature même de tout être vivant? C'est se reproduire. en fait. Et la vigne, elle cherche à se reproduire à travers son fruit, à travers le pépin. Donc du coup, quand il y a une année, elle n'a pas pu faire de fruits, l'année d'après, elle essaye de fructifier un peu plus pour maximiser ses chances de reproduction. Et c'est vrai qu'il y a un scientifique qui s'appelle Stefano Mancuso, qui est un scientifique italien, qui a créé la neurobiologie végétale. Et donc qui a vraiment mis en avant cette idée de mémoire du végétal. Parce que c'est vrai que souvent on attribue la mémoire à l'animal, et on oublie que le végétal est doué de mémoire justement. C'est pas la même mémoire que nous, parce qu'il n'a pas de cerveau le végétal. Mais il a quand même tout un mécanisme qui lui permet de se souvenir et d'acquérir des compétences tout au long de son existence, bah, pour survivre tout simplement, ou pour vivre. Et ça c'est passionnant, et donc... Nous, c'est ce qu'on essaye de faire sur les 3-4 ans, justement, qu'on est depuis installé et qu'on essaye de faire fructifier au fur et à mesure. Et on se dit, on espère que dans 5-6 ans, notre matériel végétal aura progressé et sera plus adapté à tout ce qui l'environne, donc son environnement, nous, notre action, parce qu'on fait aussi des erreurs. Hein. Du moment où on taille, ça, la taille, il y a débat là-dessus. Du moment où on taille, on vient agir sur le métabolisme de la plante. C'est forcément une agression pour elle, hein, parce que dans la nature, la plante, elle n'a pas besoin de nous, elle ne se taille pas. Elle peut être rognée un peu par des animaux. Mais c'est là toute la difficulté, c'est qu'il y a ce qu'on voudrait faire, ce qu'on fait, et ce qu'il faudrait faire. Et ça... Bah, vu que la plante, elle n'a pas de dialogue avec nous, elle n'est pas douée de parole, on a du mal à le saisir et on le redécouvre. Et là, encore une fois, on a la chance d'avoir des scientifiques qui nous le réexpliquent. Mais c'est très récent, parce que pendant des années, on s'est intéressé à l'animal. On a relégué un peu le végétal.
On s'intéressait à comment le végétal pouvait produire davantage.
Exactement, voilà. Exactement. C'était pas la même chose. C'était vraiment le végétal, c'est l'individu qui est tout en bas de l'échelle, en fait. Et on se rend compte, un peu tard malheureusement, qu'au final, on est là grâce à lui, en fait. Et il y a des scientifiques qui militent pour ça, mais c'est encore, c'est encore très peu pris au sérieux. Et c'est dommage parce que, justement, Stefano Mancuso en parlait. Darwin, par exemple, ses premiers écrits, son cœur, il est sur le végétal, il n'est pas sur l'animal. C'est vrai qu'on est resté fixé sur Darwin et de l'animal, parce que ça a fait, à l'époque, bien sûr, avec l'Église, ça a fait scandale, toutes ces théories de l'évolution. Mais ses premiers amours sont sur le végétal. Il a des écrits qui sont extraordinaires sur les végétaux, qui ont été repris par son fils. Mais malheureusement, son fils, il devait aussi défendre la théorie de l'évolution de son papa. Et il n'a pas eu le temps de développer tous ses écrits, qui ont heureusement été repris depuis par des scientifiques. Mais on est un peu à la traîne. Ça vient, mais le but maintenant, c'est de le faire connaître au grand public, quoi.
J'ai compris qu'il y avait donc certains scientifiques qui faisaient des études ou des écrits qui pouvaient vous aider.
Ouais.
Au-delà de eux, comment vous tirez vos infos? Vers qui vous pouvez vous tourner si vous avez des questions ou des interrogations? Est-ce que vous êtes nombreux à pratiquer ce type d'agriculture et plus de non-traitement ou traitement qu'aux plantes, par exemple en France ou même en Europe?
Alors, on n'est pas nombreux à vraiment rien utiliser au niveau des traitements. Nous, les seuls qu'on connaît vraiment, c'est les picatiers. Côte-Rouennaise, mais on est quand même nombreux à utiliser des infusions de plantes. Alors même si c'est couplé avec des petites doses de cuivre, etc., on est quand même nombreux à les utiliser. Donc on discute entre vignerons, savoir ce qu'un tel utilise, qu'il a trouvé efficace. Et après, nous, on fait des essais sur nos vignes et on voit ce qui fonctionne, quoi. C'est vrai que c'est beaucoup de l'échange et beaucoup de lecture.
Ok, ouais, donc c'est presque un système un petit peu d'être pionnier dans... ou de revenir à quelque chose qui a été oublié, quoi.
Ouais, oui, c'est ça, expérimental un peu aussi.
Ouais, expérimental, mais plus un retour aux sources, parce qu'au final, on n'invente rien. En fait, le vin nature existait avant le vin conventionnel, ça, il ne faut pas l'oublier. Quand on a les premières fermentations qu'on a fait, c'était forcément des fermentations nature. Donc, c'est revenir à ça, et c'est surtout une réflexion, c'est une réflexion globale.
Et tant qu'on y est, est-ce que vous pouvez faire un point sur... ce qu'est une vinification nature, on en parlait un petit peu avant en off. Pour vous, quelle est votre vision? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'un petit peu flou. On essaye de tirer les infos, d'écouter un petit peu tout le monde. Et
en tout cas, ici, quelle est la définition du nature? Parce qu'elle a...
Alors, c'est un raisin qu'on appelle bio, pas nécessairement certifié, hein, mais avec évidemment aucun produit de synthèse, hormis éventuellement la bouillie bordelaise, quoi, à la vigne. Et après, en cave, c'est rien, quoi. Enfin, aucun intrant, pas de filtration et pas de sulfite surtout, quoi, même avant la mise.
Voilà, parce que c'est vrai qu'on en parlait avant l'entretien. C'est vrai qu'on les gens ont tendance à se fixer sur les sulfites, mais c'est pas le seul élément qu'on peut rajouter. Il faut pas l'oublier. C'est pas les seules interventions. Donc le but, c'est vraiment rien en vinification, c'est ouais, zéro.
On peut rajouter des levures. Qui sont qu'on appelle les levures sèches actives. On peut stabiliser un vin tartriquement pour pas qu'il y ait des précipités tartriques. Et donc ce qu'on retrouve souvent dans les fonds de bouteille quand ça subit un petit peu un choc thermique. Tu peux mettre, je sais pas, tu peux mettre de la vitamine C, ce qu'on appelle l'acide ascorbique pour protéger le vin, un peu comme le sulfite, quoi. Enfin, il y a vraiment un tas de choses que tu peux mettre. Tu peux faire des collages, tu peux mettre de la bentonite pour faire déposer tout ce qui est en suspension dans le vin plus rapidement. Enfin, il y a vraiment tout un tas de choses qu'on peut mettre dans un vin, quoi.
Voilà, le résumé, c'est vraiment vin minimum bio et en vinification, enfin raisin pardon, minimum bio et en vinification zéro. Puis après une honnêteté quoi de la personne, c'est de discuter. Après c'est pas notre définition, c'est nous l'impression ce qu'on a entendu des anciens, de ceux qui sont avant nous, qui se sont battus justement pour ce terme vin nature ou vin naturel, et c'est de le perpétuer quoi. Après c'est sûr qu'il n'y a pas de représentativité fixe de ce que c'est, parce que c'est un mouvement de vin libre, mais pour nous, c'est le minimum quoi, qu'on doit donner. Quoi.
Ouais, parce que vous allez bien plus loin que ça, vous disiez que vous ne faisiez pas de filtration aussi.
Voilà.
Et voilà, est-ce que vous pouvez détailler jusqu'où vous allez
Eh bien, nous, le là où on va le plus loin, je dirais, c'est sur la partie viti, parce que pour faire du vin nature, et ça, c'est ce qu'ont toujours dit les vignerons, ça part de la vigne, du raisin. Et tu peux pas faire de grands vins nature sans avoir des raisins de qualité. Il y en a qui essayent de tricher en prenant des vins conventionnels, mais après tout, ça se retrouve toujours. Tu peux avoir des difficultés au niveau des fermentations, même au niveau organoleptique. Après, quand tu dégustes le vin, tu vois bien qu'il y a quelque chose de différent. Même si tu as fait une vinification nature derrière, tu n'as pas les mêmes éléments dans ton raisin à la base. Donc nous, c'est surtout sur le travail en viticulture où on va le plus loin possible, où on essaye d'aller le plus loin possible, comme on le disait avec l'action juste des huiles essentielles et des infusions.
Et donc,
voilà, la biodynamie, donc la stimulation de tout ton couvert végétal pour apporter le plus de complexité dans ton sol afin d'avoir une vigne qui est la plus riche possible au niveau de sa mycorhisation. On l'évoquait aussi, donc c'est toute la partie au niveau du sous-sol, c'est tous ces champignons qui vont donner beaucoup d'éléments au raisin en échange du sucre de la photosynthèse de la vigne, pour faire simple. Et c'est là notre but, c'est vraiment de stimuler au maximum toute cette biodiversité. Ça, c'est le mot global,
pour avoir
un raisin le plus équilibré possible et le plus riche, en fait, possible. Même si ton raisin, il est abîmé, même si ton raisin, il semble pas beau, ça, c'est des impacts de maladies de champignons extérieurs. Mais nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est aussi vraiment tous ces champignons qui sont présents en sous-sol et qui vont donner la richesse à cette plante. Et puis après, donc en vinification, bah, là, c'est très simple, c'est 0-0. Donc c'est vraiment le but, c'est de rien mettre. Après, on a tous les vignerons nature ont des actions de vinification différentes. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas faire des macérations en grappe entière? Est-ce que tu vas faire des carboniques? Combien de temps tu vas laisser macérer? Ça, après, ça c'est la richesse de chaque vigneron. Et après, ça même, nous, ce qu'on défend, c'est qu'en fait, c'est des goûts. Ça appartient à chacun. Tu peux avoir goûté un vin nature, celui-ci te plaît pas. Ça, c'est l'université du goût. C'est qu'il y a des choses que t'aimes, que t'aimes pas, ça s'explique, c'est comme ça.
C'est propre à chacun.
Voilà, c'est propre à chacun. Nous, le but, c'est vraiment d'aller le plus loin possible sur la partie viti. Et c'est là où, en fait, on travaille beaucoup, parce qu'on parlait beaucoup du clone et de la massale, et en ce moment, l'expérimentation qu'on a lancée cette année, qui nous tient vraiment à cœur, c'est qu'on a lancé une reproduction sexuée de la vigne.
Par pépin.
Par voie de pépin. Parce qu'en fait, depuis des années et des années, on fait de la reproduction asexuée, donc par bouturage. Et ça, notamment, c'est grâce à un scientifique qui s'appelle Marc-André Solos, qui est un scientifique français, qui est intervenu et qui, lui, travaille sur les symbioses, donc les champignons, et est passionné de vignes. Et en fait, c'est vrai qu'il a évoqué le fait... Les vignerons, on va dire classiques, on a tendance à chasser, et c'est normal, le mildiou, le black rot, toutes ces maladies qui sont en surface, tous ces champignons, parce que ça atteint le fruit, et ça peut détruire le fruit, dans le pire des cas. Et il dit, attention, parce que vous avez tendance à oublier que les champignons sont vos alliés pour la vigne, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, en souterrain.
Les mycorhizes, ouais.
Toute la mycorhize. Et donc, à force de faire de la reproduction dite asexuée, donc on a utilisé toujours les mêmes individus. Et donc ces individus-là...
Bon, sauf pour les massales, mais ça reste quand même...
C'est quand même
enfin, c'est ça reste quand même une reproduction, ouais. Voilà, même si tu as différents individus, parce que c'est quand même des semi-clonages de plantes. Quoi.
Voilà. Et donc il dit, attention, vous avez stoppé l'évolution de votre plante. Donc votre plante, elle ne peut plus vivre en symbiose avec ses champignons du mildiou, du black rot. Elle ne peut plus se défendre quand il y a des sécheresses. Elle ne peut plus emmagasiner toutes ces informations et donc appliquer ce qu'on disait tout à l'heure, cette mémoire du végétal.
S'adapter, ouais.
Donc on a lancé, on a utilisé, on a récolté des... Donc au moment des vendanges, on a pris des baies de raisins bien mûrs, on a prélevé les pépins dessus sur nos sélections massales de gamay d'Auvergne, et donc on est en train de mettre ces pépins à germer. Donc on va voir, et le but... c'est de faire sortir ces pépins, donc de les faire germer, d'avoir ces petites vignes, de les laisser en pot pendant... là, on s'est rapproché d'un empélographe qui s'appelle Taran Limousin, qui est un peu un disciple de Marc-André Sellos.
Voilà, ans à peu près.
Voilà, les laisser 5 ans en pot, après les planter, les confronter un peu à la nature, en fait, à tout ce qui va se passer, et que eux puissent s'adapter à leur environnement, et ensuite on récupérera les pépins
de ces
vignes-là, et ainsi de suite, pour vraiment essayer de rattraper ce retard d'évolution génétique qu'il y a eu.
Parce que du coup, juste si j'ai bien compris, oui. La reproduction sexuée permet d'avoir un brassage génétique qui n'est pas fait parce qu'on, lorsqu'on a du clonage.
Exactement.
Brassage.
Parce que ce qu'on veut par bouturage, c'est garder le cépage. On veut avoir un gamay, on veut avoir un grenache noir, on veut avoir un pinot noir. Et nous, ce qu'on dit, enfin, notre vision de la chose, c'est que c'est pas le plus important, le cépage. Ça, c'est une vision très anglo-saxonne. On a cherché à goûter, à avoir absolument ce que c'était un gamay, absolument ce que c'était un chardonnay. Ce qui nous intéresse, c'est la qualité organoleptique du vin à la fin. Et quand tu mets ta jeune vigne, faite par reproduction sexuée, au milieu d'un environnement, tu vas faire ce qu'on appelle du métissage, parce qu'elle va se faire pas forcément féconder par du gamay. Elle peut être fécondée par autre chose.
Elle sera nécessairement adaptée en fait à ton terroir, vu qu'elle vient du terroir, qu'elle s'est reproduite avec une autre vigne qui est quand même de la zone autour, même si c'est pas forcément la vigne à côté, tu vois. Donc du coup, forcément, ça va donner quelque chose d'adapté au terroir. Donc en fait, c'est ça l'essentiel, quoi. Parce que si on voulait connaître les cépages, c'était aussi pour savoir s'ils étaient adaptés au terroir. Mais si tu prends un pépin, bah, sera nécessairement adapté au terroir.
S'il se développe, donc, parce qu'on sait qu'on aura beaucoup de...
Mais on ne saura pas ce que c'est.
On ne saura pas ce que c'est, ça sera un métis.
Donc on va essayer de suivre pour voir ce que ça donne, effectivement. Est-ce qu'on aura de nouveau un gamay, ou est-ce qu'on aura autre chose ou... Et l'idée, c'est surtout de voir, ben, du coup, de comparer avec des vignes qui sont en massale classique, et de voir si effectivement il y a une meilleure résistance aux maladies, ou à la sécheresse, ou on peut trouver différents facteurs à observer, quoi. Ça, c'est l'idée.
Et en même temps, là, vous parliez aussi un peu en off, tu récoltes aussi des plantes dans tes parcelles pour voir un petit peu l'impact...
Oui, des plantes bio-indicatrices. On a commencé ça là cet hiver, on a fait un herbier, donc on récolte toutes les plantes qu'il y a. Et en fait, chaque plante est un indicateur de la vie des sols. Et donc du coup, en recoupant toutes les plantes, ça permet de faire un peu une analyse de l'état de santé de la parcelle. Et donc ça te permet un peu d'adapter ton travail en fonction des plantes que tu vois. Et donc si, je sais pas, c'est compacté, si il y a un manque d'azote ou de choses comme ça, ben toi après derrière tu peux t'adapter et essayer d'intervenir de façon à compenser ces problèmes-là.
Et aussi au niveau de la gestion de l'herbe justement, parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte... On le voyait grossièrement, c'est ce qu'on appelait les plantes pivots. On le voyait, nous, on a récupéré des vignes qui étaient en chimie, et en fait, on voyait très bien ces immenses plantes. Et en fait, quand tu les tires, elles ont un système racinaire énorme pour des plantes, parce que c'est ce qu'on appelle les plantes décompactrices. Et ça, c'est en voyant que un an et demi après, elles étaient plus là, ces plantes, ou elles diminuaient en termes de quantité, on a vu apparaître d'autres choses. C'est là où on s'est dit, c'est super, il faudrait vraiment qu'on suive, mais sur toute notre vie, en fait, parce qu'au bout de 30 ans, on aura oublié. Et donc c'est là où cette idée d'herbier est arrivée, de faire à chaque saison, chaque année, pour chaque parcelle, et vraiment avoir un suivi. Et nous, ça nous permet de voir où on en est. Parce que, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dialoguer avec la nature, l'être humain, on a tendance à penser que ce qu'on fait, c'est forcément bénéfique pour la nature. Mais elle a, en fait, elle n'a pas forcément besoin de toi pour vivre, pour exister. Si demain, l'être humain disparaît de la planète, elle s'emportera, enfin, le végétal se portera sûrement mieux, même s'il ne faut pas non plus tomber dans cet extrême-là et ce cliché-là, c'est qu'il y a des plantes qui se sont développées par la présence de l'être humain. Donc elles sont très contentes. Je veux dire, la carotte, au début, quand c'était de la carotte sauvage, je pense qu'elle doit être très contente de son sort à l'heure actuelle, parce que la carotte, elle s'est multipliée... La carotte est contente, je pense. Enfin, la carotte, le bon semis de carotte, quoi, pas le semis industriel.
On travaille très peu les sols, on les travaille qu'une fois par an, au printemps, au moment où il y a la première poussée d'herbe pour justement un peu la calmer, quoi. Et donc on fait ça au motoculteur, c'est vraiment plus un griffage qu'un travail des sols, quoi. C'est un travail des 5 premiers centimètres, quoi,
du
sol. Donc l'idée,
ouais,
c'est de surtout pas déstructurer, parce que le problème, c'est que si on travaille trop le sol, on déstructure complètement la vie des sols, parce qu'on va retourner une phase qui est plus souterraine, qui est en anaérobie, et on va la mettre au contact de l'air, et ça va tuer toute la vie qui était dans ces sols, en fait. Donc du coup, ça n'a pas grand intérêt de travailler vraiment les sols, et on se pose même la question d'arrêter complètement de travailler les sols, parce que même un griffage, en soi, ça casse un peu la vie en surface. Et donc on se pose la question, est-ce qu'il ne vaut pas mieux juste garder les plantes et laisser les racines faire le travail, en fait, d'aération, donc ce qui est un peu plus ou moins recherché, en dehors du travail de l'herbe, et juste couper l'herbe, quoi.
Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on intervient, quand même, on a un micro-motoculteur qui n'est pas lourd, donc il vient, il faut avoir un bon créneau, il faut qu'il y ait un tout petit peu d'humidité dans les sols pour que tu puisses les travailler, mais sans que ça soit non plus trop humide, parce que sinon tu t'enlises, et donc là tu vas plus profondément.
Et
nous, c'est vraiment
de
racler, on vient racler, quand on vient avec le motoculteur, ça enlève en fait cette première couche d'herbe, on voit vraiment ce petit système racinaire, hop, qui est retourné. Mais comme dit Amélie, on fait quand même des dégâts. C'est là où c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, l'intervention humaine, elle fait quand même des dégâts. Moi, ça m'arrive, quand je regarde, je passe derrière le motoculteur, tu vois bien que tu viens de tuer des vers de terre, en fait, tu le vois. Donc en fait, c'est un peu stupide. Mais on avait des vignes qui étaient en chimie. Donc le but, c'est d'aider à décompacter, vraiment, de ne pas attendre que l'utilisation des plantes, parce que c'est ce qu'on disait. Les plantes décompactrices, on est obligé de les supprimer à un moment donné de la saison parce qu'elles sont trop hautes apportent de l'humidité, en fait. Elle a trop d'humidité en surface foliaire. Et donc, du coup, on est obligé de venir les supprimer. Donc, nous, on vient donner un petit peu, mais c'est vrai que là, maintenant, on commence à être content sur certaines parcelles du résultat. Il y a encore des parcelles où c'est un peu compact, on le voit. Après, on se pose la question aussi de l'attraction animale, parce que ça, c'est un truc qui nous plairait énormément.
Pour
l'instant,
en fait, utiliser le moins de pétrole possible.
Voilà. Et malheureusement, pour l'instant, on n'a pas l'argent pour payer un prestataire de service, en traction animale. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous plairait, parce que c'est plus léger comme travail. Et tu peux le faire, t'es pas obligé de le faire sur tout terrain, par exemple. Tu peux le faire un rang sur deux assez facilement. Enfin, c'est assez malléable, quoi. Et alors, on a un âne qu'on essaye de dresser un petit peu au fur et à mesure, mais on n'est qu'au début de son dressage. On a bon espoir qu'un jour, on arrive à le dresser pour qu'il tire, mais trois fois rien, juste pour griffer à peine le sol. Mais on verra, c'est quelque chose qui nous... Et puis après, sinon, ça a entretenu tout le reste de l'année, c'est pioche ou fauchage, quoi. Donc voilà, c'est vrai que... Il n'y a pas de mécanisation, il n'y a pas de tractorisation, mais parce qu'on a des parcelles qui ne s'y prêtent pas avec nous, ça ne nous intéresse absolument pas. Encore une fois, c'est de se séparer, et on voit bien que ça devient un enjeu, c'est de se séparer du maximum du pétrole, quoi.
Est-ce qu'on pourrait peut-être aborder la dernière partie où on parlait un petit peu de vos vins? Comment se compose votre gamme?
Alors nous, on vinifie par terroir. Donc on n'a que du gamay, donc forcément la diversification dans la gamme, elle se fait par le terroir. Et puis nous, ça nous paraissait plutôt évident de travailler comme ça. Donc il y a Attente d'hiver, donc qui sont les vignes de Clermont, donc c'est les vieilles vignes de Clermont. Et après on a Sombres Archives, qui est sur le terroir de Basalte, justement à Enval, sur la coulée de lave de Saint-Hippolyte. Et on a les Sables de Madargue.
Donc ça, c'est la cuvée pour les gazelles et les gazous qui bougent leur anatomie. Voilà. Et après, on a une autre cuvée qui s'appelle Sabois, qui est là depuis l'année dernière, qui est une cuvée à la fois de, d'achat de raisins et à la fois de vin du, enfin, de parcelles du domaine. Voilà. Et puis depuis l'année dernière, enfin depuis cette année, pardon, on fait aussi ce qu'on appelle de l'achat de raisins, donc de la négoce. Donc on va acheter des raisins dans le sud chez un jeune vigneron qui s'appelle Vincent Lafage. Son domaine c'est Salicar Wine.
Et chez Damien Petitfils aussi.
Et chez Damien Petitfils, qui est un jeune vigneron en installation aussi. Donc ça c'est dans le Roussillon.
Du côté
donc
de
c'est des raisins qui, voilà, c'est des raisins qui sont en bio pour les deux. Et donc nous on va vendanger, on va donc on rentre le raisin, on le ramène ici en Auvergne et on le vinifie chez nous. Donc c'est une solution qui nous permet, enfin qui a germé d'un point de vue économique en fait, suite à 2019 où on a eu cette double canicule, donc très peu de volume. Et nous on ne voulait pas augmenter les prix indéfiniment. Il y a vraiment un prix, une barrière qu'on ne peut pas passer en termes de prix. Donc l'autre solution, c'était d'augmenter le volume naturellement. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en place et dont on est très content. Et le but, c'est un peu de diversifier. Là, on a deux cuvées, pardon, de négoce, d'achat de raisins. Et le but, c'est peut-être de diversifier, d'aller chercher, de s'amuser, d'avoir un peu un côté libre en allant chiner un peu des vignerons, voilà, des raisins qui nous plaisent. Et pas de se mettre de limites en fait sur le lieu quoi, sur la zone géographique.
Ouais, parce qu'en fait on fait du non-traitement, mais faire du non-traitement c'est aussi accepter des rendements beaucoup plus faibles du coup, parce que tu es beaucoup plus sujet aux aléas climatiques. Et donc le négoce, ça nous permet de continuer notre agriculture engagée tout en faisant vivre le domaine, parce que pour le moment en fait le problème c'est qu'on n'a pas assez de surface, donc on peut pas faire suffisamment de bouteilles quoi. Il nous faudrait plus de surface pour vivre que de notre domaine. Pour le moment, c'est compliqué. Donc, on fait du négoce pour compenser en attendant de trouver
un peu plus de terrain.
Voilà.
Et si on veut retrouver vos vins, comment on peut faire? Où est-ce qu'on peut les trouver? Où est-ce qu'on peut les boire?
Ça dépend où.
Essentiellement, ça, le réseau de distribution, on s'est posé assez vite la question, parce que vu qu'on était sommelier avant, c'était une question qui intéresse souvent le sommelier. On a cloisonné. On a réservé une petite partie pour l'export, donc ça c'est.
Parce
on a.
T'es les premiers à venir nous voir.
Voilà, c'est vraiment les premiers qui nous ont soutenus. Donc on a le Japon, la Belgique et l'Allemagne. C'est vrai que d'un point de vue, le Japon c'est toujours un peu dérangeant. C'est un sujet qu'on évoque beaucoup entre vignerons parce que c'est quand même envoyer tes vins sur des super tankers, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus écologique, mais c'est des gens qui sont doués d'une grande ouverture d'esprit et qui sont passionnants quand on les reçoit au domaine. Nous on sait en écho qu'ils font un super boulot avec nos vins au Japon, que c'est des vins qui sont mis en avant, qui sont appréciés et voilà, qui sont vraiment valorisés et expliqués parce qu'ils vont vraiment dans le détail. C'est une culture qui est passionnante, donc ça nous plaisait. Et puis après, on voulait limiter aussi aux pays limitrophes, européens, quoi, qui sont des pays frontaliers, donc l'Allemagne, la Belgique, ça nous paraît assez cohérent. Après, on a une partie, on vend aux pros en France, donc on a deux grandes zones géographiques. On a l'Auvergne, bien sûr.
C'est un tiers de la production.
Un tiers de la production pro en Auvergne, enfin pour les pros auvergnats, et puis Paris, hein, qui est un autre regroupement. On a quelques établissements à Paris, et puis après on a quelques zones, l'Alsace, la façade atlantique, un petit peu en Provence. Voilà, c'est très localisé. C'est surtout des établissements en fait, des quelques établissements particuliers.
Ouais, et après, chez nous aussi.
Voilà, après il y a un site internet parce que ça nous semblait assez intéressant aussi parce que les gens peuvent avoir accès partout en France en fait, peuvent avoir accès au vin directement. Puis c'est quelqu'un qui fait un très très bon travail. Et puis après c'est les particuliers. On réserve toujours une partie de notre vin aux particuliers.
Un quart de la production pour les particuliers.
Pour les particuliers, la famille, les amis ou les gens qui sont de passage, tant qu'il y a du vin. Parce que le but, c'est vraiment d'essayer de maximiser la vente au local, quoi. Même si, bien sûr, que les gens ont le droit d'avoir du vin partout en France. Mais c'est vraiment de maximiser. Là, sur notre nouveau millésime, on faisait la répartition. On a 40% du millésime 2021 qui va normalement partir en Auvergne, que ça soit pro ou particulier confondu. Okay. Donc ça laisse 60% pour le reste de la France et puis l'export. Donc 40%, c'est déjà un bon score pour l'Auvergne. Et on aimerait le développer parce qu'il y a un très joli... On a des professionnels en Auvergne qui font un boulot de fou. Et les gens s'intéressent de plus en plus.
Et justement, est-ce que vous pouvez nous donner une fourchette de prix de vos vins?
Ils sont tous à 15 euros.
Tous à 15 euros.
Bon, c'est simple.
Voilà. Ouais, c'est simple et puis c'est un prix
Nous, il fallait que ça reste accessible.
Ouais.
Parce que c'est bien de prôner une agriculture respectueuse, mais il faut que ça reste accessible au portefeuille de tout le monde. Si on veut que les gens changent leurs habitudes de consommation, il ne faut pas que ce soit cher parce que sinon, ils ne peuvent pas en fait. Donc voilà, d'où le négoce aussi. Ça permet pour nous de maintenir les prix à ce niveau-là. Et par contre, pour le négoce, les deux cuvées de négoce qu'on va faire cette année, on les vendra 16 euros, mais parce qu'on veut reverser 1 euro à une association, 1 euro sur chaque bouteille pour une association.
Donc ce sera
la Diane Fossé Foundation, pour la préservation des gorilles.
Okay. Super. Et dernière question, est-ce qu'il y a un vigneron que vous aimeriez écouter à votre place sur ce podcast?
Oui, il y en a beaucoup.
Vous avez le droit d'un chacun.
Un chacun, ouais. Qu'on voudrait écouter.
Parce qu'on veut le découvrir ou parce qu'on l'aime bien?
Peu importe la raison.
Moi, je dirais Patrick Desplat, parce que j'aimerais beaucoup savoir comment il travaille et que nous, on a quand même moins le temps de se déplacer maintenant qu'on est vigneron. Donc c'est vrai que les occasions d'aller loin sont plus rares. Donc j'aimerais bien entendre Patrick Desplat.
Super.
Moi, je vais être plus classique. Je vais citer, ouais, c'est dur comme question. Je pense à un autre Auvergnat. Patrick Bouju et Justine, je pense, parce que c'est des gens qui ont une mémoire en fait et qui font du vrai vin nature depuis des années et des années, qui ont toujours refusé tous les intrants dans leur vin et je pense que ça fait partie des modèles pour nous et c'est des gens qui ont énormément de choses à raconter sur le milieu.
Super, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou en parler autour de vous. Comme vous l'aurez compris, le but de ce podcast, c'est aussi de confronter les différents avis. Si vous avez des remarques, des compléments d'information, vous pouvez les inscrire en commentaire ou sur Instagram. Nous sommes aussi joignables par email, toutes les informations sont dans la description. Boom, 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 boom